l'art de la fausse générosité avec Lionel Astruc.
Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus. Il fait super beau dehors et donc ça me fait plaisir que vous soyez venus. Est-ce que vous seriez d'accord pour vous rassembler un peu? Je me sens un peu seul et ça me ferait plaisir si ceux qui sont vraiment loin pouvaient se rapprocher. Mais je évidemment forcer personne, mais je me sentirais plus proche de vous pour dialoguer, c'est plus facile. Merci beaucoup. Vous êtes adorable, c'est gentil. Donc, et puis je laisse ceux qui arrivent le temps de s'installer. Donc, je m'appelle Lionel Astruc. Je suis écrivain. Et j'ai écrit un certain nombre d'essais, de récits, etc. Et par ailleurs, je m'occupe également d'un projet d'université de l'agroécologie dans le sud de la France qui s'appelle l'Université Domaine du Possible et où on a pour objectif de voir ce que pourrait donner l'agroécologie à une échelle un peu plus grande que ce qui se fait aujourd'hui. Donc suivre l'exemple des petites fermes qu'on connaît, mais en développant un peu plus pour voir si on ne peut pas approvisionner un peu mieux le marché avec des produits issus de l'agroécologie. Bon, voilà, ça c'est l'autre versant de mes occupations. Alors, ce livre, en fait, je l'ai écrit après une petite colère. Parce que, comme moi, peut-être, vous avez déjà vu passer quelques articles, quelques reportages sur la démarche de la fondation Bill Gates. Finalement, ce sont des éléments qui sont assez rares. On en a vu un peu sur Arte. Il y a eu quelques éléments, mais qui étaient un peu éparpillés. Et par ailleurs, on entend toujours citer Bill Gates comme étant une référence de la philanthropie, une espèce de champion du monde de la générosité. Et lorsqu'on sait un tout petit peu la réalité de sa démarche, c'est toujours surprenant. Et en fait, ce qui m'a vraiment déclenché, c'est le moment où j'ai lu dans les pages d'un grand quotidien qui consacrait un numéro spécial au mécénat, lorsque j'ai lu une fois de plus cette référence, comme si c'était un peu l'étalon de la générosité, vraiment la fondation incontournable, le philanthrope incontournable. Récemment, je l'ai encore entendu sur France Inter, Léa Salamé, un matin. Donc, en fait, c'est... J'en veux pas forcément aux journalistes même pour ça, mais simplement, c'est devenu, c'est devenu une sorte de point de repère qu'on ne prend plus la peine de vérifier. D'ailleurs, quand on parle de philanthropie et puis que d'un seul coup, il y a quelqu'un qui arrive et qui donne une grosse somme d'argent, on dit « Ah oui, c'est comme Bill Gates ». Voilà. Et donc, à partir de là, je me suis dit « Bon, déjà, moi, je trouve surprenant que rien ne soit sorti ». Avant le livre que j'ai fait. Ça, c'est vraiment un truc qui m'intrigue. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi ça ne s'était pas passé, pourquoi il n'y avait encore aucun livre qui était sorti. Je trouvais ça un peu surprenant. Donc, je me suis mis à faire des recherches sur ce sujet dans les différents domaines. Parce qu'en fait, pourquoi une des raisons pour lesquelles, pour l'instant, rien de plus gros n'est sorti, c'est parce que la stratégie, la démarche de Bill Gates, c'est une démarche qui est très éparpillée, qui fonctionne un peu en arborescence. Et tant que vous ne rassemblez pas les pièces du puzzle, on ne peut pas comprendre en fait la logique d'ensemble et la stratégie de la fondation Bill Gates et la stratégie de Bill Gates lui-même. Et c'est toute la subtilité, en fait, de sa démarche. C'est-à-dire qu'il intervient sur des secteurs qui sont tellement variés, tellement différents. Première chose, il intervient dans des régions également éparpillées. Et donc, ces domaines d'influence ont l'air d'être comme ça très divers. Et du coup, c'est assez complexe, en fait, de comprendre, encore une fois, cette stratégie d'ensemble. Donc, il intervient dans l'agriculture, la santé, etc., dans des domaines, la pauvreté, etc. Et donc, je me suis dit que c'était intéressant de chercher et de creuser pour essayer de comprendre cette logique d'ensemble. Alors, une fois que j'ai rassemblé du coup toutes ces pièces, le puzzle m'est apparu assez, l'image m'est apparue assez claire. Et pour la raconter, j'allais dire, d'une manière attractive, efficace, j'ai voulu en fait retracer le parcours de son argent depuis le moment où il rentre dans les caisses de Microsoft jusqu'au moment où prétendument il est donné. Bon, mais on verra qu'en fait ces dons n'en sont souvent pas et sont plutôt des investissements déguisés. Donc première étape pour moi, on n'est pas généreux lorsqu'on donne l'argent des autres. Ça, c'est la première chose. Et donc, pour moi, quelqu'un qui a une stratégie d'évitement fiscal qui est aussi efficace, aussi puissante, ne peut de toute façon pas se prétendre généreux par la suite. Et en l'occurrence, en faisant des calculs, on s'aperçoit que les sommes données sont quasiment égales ou supérieures, enfin les sommes, pardon, détournées du fisc sont voilà, quasiment égales ou supérieures aux sommes qui vont être soi-disant données par la suite. Donc dès le départ, en fait, on a cette volonté, en fait, de contourner l'État. C'est-à-dire que là où l'État pourrait intervenir plutôt d'une manière qui a été pensée de manière démocratique, via des élections, des élus qui prennent des décisions pour leurs électeurs, etc. Bill Gates pense que non. En fait, il vaut mieux ne pas donner d'argent à l'État et intervenir là où on le souhaite, d'une manière finalement arbitraire, ou en tout cas, on verra plus tard, conforme à des intérêts qui sont des intérêts particuliers plutôt que l'intérêt général. Donc il faut savoir quand même que Bill Gates admet, par rapport au trésor américain, par rapport au fisc américain, il admet que 92 milliards de dollars sont placés à l'étranger, dans des filiales étrangères, des paradis fiscaux, etc., parce que s'il les rapatriait aux États-Unis, il devrait payer 29 milliards d'impôts. Donc ces 29 milliards, c'est une perte pour l'État américain. Et Bill Gates le reconnaît. C'est-à-dire, c'est moi au fond, j'ai rien inventé, quoi. C'est-à-dire que c'est surtout cette démarche de rassembler le puzzle, finalement, qui m'a conduit dans cette enquête. Mais les éléments de preuve sont là. Et on sait également que, pour vous redonner des chiffres et des ordres de grandeur, ça me semble important, c'est en 3 ans, Microsoft déplace à l'étranger 21 milliards de dollars. Voilà, donc après vous avoir donné le chiffre dans toute sa grandeur, je vous donne un petit peu de manière un peu plus périodique, qui lui fait faire 4,5 milliards d'économies d'impôts qu'en réalité il aurait dû payer au Trésor. Et ça conduit, enfin, certains spécialistes de la fiscalité expliquent qu'en fait Microsoft, c'est surtout un exercice géant de planification fiscale. Voilà. Donc ça, c'est la première étape de cette de cette espèce de fleuve que constituent ces grandes sommes d'argent, ces grandes masses d'argent. La seconde étape, c'est quand, en réalité, l'argent qui devrait être donné, il n'est pas donné. Dans un premier temps, il est investi dans un fonds de dotation, un trust, qui est adossé à la fondation Bill et Melinda Gates. Ce trust, en fait, alors ça c'est pas, comment dire, c'est pas forcément critiquable en soi, parce que d'autres le font, et pourquoi pas, si c'était des investissements vraiment éthiques, responsables, écologiques, etc., il pourrait y avoir une forme de cohérence dans cette démarche. Alors, ce que fait donc la fondation Bill et Melinda Gates, c'est donc de faire fructifier cet argent d'abord et de ne donner que les dividendes par la suite à la fondation. La fondation utilise les dividendes de ce qui vient du fonds de dotation. Le problème, c'est que ce fonds de dotation, ce trust, dans quoi est-ce qu'il investit pour créer ses dividendes ? Il investit dans les énergies fossiles, Total, BP, un British Petroleum. Il investit dans la malbouffe, Coca-Cola, McDo, etc. Il investit dans l'industrie de l'armement. Il investit dans l'industrie chimique, dans l'industrie pharmaceutique, etc. Donc, il y a une petite contradiction, en fait, entre les objectifs affichés d'intérêt général et, finalement, ce qui va se passer par la suite. Voilà. Ça, c'est donc... Il faut savoir, en fait, que le fonds a investi dans 35 des 200 sociétés qui émettent le plus de CO2 sur la planète. Donc c'est ce que je vous ai cité, un géant du pétrole, du charbon, société d'exploitation de combustible, etc. D'ailleurs, Bill Gates ne se cache pas de dire que pour lui, le désengagement des énergies fossiles, c'est une fausse solution, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est le deuxième étage. Après, ensuite, il y a donc les dons eux-mêmes. Et c'est là où encore c'est vraiment intéressant de voir que donc Bill Gates n'est pas le seul à faire ça, à pratiquer ce qu'on appelle le philanthrocapitalisme, et qui est une pratique qui est connue et aujourd'hui voilà, qui est identifiée, expliquée, définie, et que d'autres utilisent aussi. Ce philanthrocapitalisme, en fait, c'est devenu, pour quelques ultra-riches, ce qu'était auparavant avoir une villa, un yacht, etc., un signe extérieur de richesse. Aujourd'hui, il faut avoir sa fondation. Alors, je ne dis pas que tout est noir. Je pense qu'il y a des fortunés qui sont sincères dans leur démarche et probablement efficaces aussi. Mais il y a aussi une démarche qui consiste en fait à se servir de ces dons, de cette philanthropie, pour consolider un système qui les a portés au sommet de la pyramide. Donc, c'est ce qu'on appelle les grands philanthropes, en fait, c'est quelques ultra-riches. Ils sont 1% à posséder 48% des richesses mondiales. Et le système qu'a mis en place Bill Gates, en fait, c'est un système qui permet de conforter cette position d'être tout en haut de la pyramide et de continuer à détenir le pouvoir et à détenir autant de richesses. D'ailleurs, ce qui est assez cocasse, c'est que fin des années 90, début 2000, quand Bill Gates a démarré cette démarche de philanthropie, on a tout de suite compris qu'il allait vouloir, tout comme il l'avait fait pour Microsoft, devenir le meilleur, le plus grand, le grand champion, etc. Et donc, la presse l'a complaisamment présenté vraiment comme un champion de la générosité qui allait se dépouiller de sa grande fortune au profit des pauvres, etc. Et en réalité, ce qu'on voit quand même, c'est que la valeur nette de son patrimoine ne fait qu'augmenter. Donc plus il donne et plus il est riche. Alors ça peut marcher dans les dictons qui concernent la vraie générosité, hein, qu'on peut être riche d'autre chose que d'argent. Mais là, non. Là, c'est plus il donne et plus il est riche en argent sonnant et trébuchant. Et encore une fois, pour vous donner quelques chiffres, sa fortune personnelle est passée de 56 milliards de dollars en 2011 à 78,9 milliards de dollars en 2015. Voilà. Donc une augmentation de 23 milliards en 4 ans. Donc pour quelqu'un qui avait l'intention de donner 95% de sa richesse, etc., il y a quand même un truc qui cloche un tout petit peu, quoi. Et moi, d'un point de vue plus global, c'est vrai que ce qui m'a alerté et ce qui m'a conduit à m'intéresser à ce sujet, c'est de voir quelqu'un qui était connu comme pour sa capacité à concentrer des richesses et pour sa prédation sur les richesses, justement, devenir l'exemple, c'est un espèce d'inversement d'image comme ça, devenir d'un seul coup l'opposé de ce pourquoi on le connaissait. Et ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui pose vraiment question, quoi. Donc, pour revenir à notre petit déroulé et à ce parcours que fait l'argent, l'objectif, conscient ou non, en fait, hein, c'est de conforter cette place d'ultra-riche à la tête du système en passant par la philanthropie, le don. Alors, comment est-ce qu'il s'y prend concrètement ? C'est une stratégie, en fait, qui consiste à donner, à faire des investissements indirects, des investissements déguisés, pas forcément directement pour sa société, mais pour, par exemple, pour des sociétés qui font partie de ce fonds de dotation dont je vous parlais tout à l'heure, de ce trust dont les dividendes financent la fondation. Alors, pour vous donner un exemple, c'est quelque chose qu'a dénoncé la revue scientifique Le Lancet, une revue britannique. La fondation, en fait, lorsqu'elle choisit des maladies contre lesquelles lutter, Le Lancet explique que la fondation, en fait, favorise les maladies qui appellent la diffusion des vaccins et néglige les autres. Et par exemple, la recherche sur la pneumonie, la diarrhée, la sous-nutrition maternelle et infantile, etc., qui pourtant est responsable de 75% de morts d'enfants dans certains pays, eh ben, finalement, elle est relativement peu financée par l'organisation. Pourquoi ? Parce que ces maladies, eh ben, ne nécessitent pas la mise au point de nouveaux vaccins, mais il existe, en fait, voilà, des mesures de prévention efficaces qui sont déjà bien connues. Et donc, eh bien, ça fait pas partie des maladies qui sont choisies pour être pour dans l'action de la fondation Bill et Melinda Gates. Ça, c'est pour la santé. Vous avez probablement entendu parler de la grande proximité entre la fondation Gates et Monsanto. Là aussi, il y a une stratégie indéniable. Alors, il faut, pour bien comprendre, parce que je voudrais préciser quand même que je même si ça peut paraître un peu surprenant, je pense que Bill Gates est sincère dans sa démarche. C'est-à-dire, je crois qu'il pense vraiment être généreux. Je ne crois pas qu'il y ait de complot. Et je pense qu'il est de bonne foi et de bonne volonté. Et c'est probablement le pire, en fait. Parce que cette sincérité lui donne aussi l'énergie d'aller jusqu'au bout de ses démarches. S'agissant d'une personne aussi puissante... Ça laisse augurer des dangers que ça peut faire courir au reste du monde, quoi. Que dans certains secteurs, il donne davantage que beaucoup de pays. et pas des pays, pas seulement des pays pauvres, des pays riches également, quoi. Mais pour continuer sur cette la philosophie qui guide Bill Gates, c'est quelqu'un qui est absolument convaincu que la technologie va sauver le monde. Il croit de manière presque obsessionnelle en la technologie. Donc il faut diffuser des vaccins, il faut diffuser des ordinateurs, des tablettes, des téléphones portables, etc. Et c'est la définition aussi du philanthrocapitalisme. C'est-à-dire que le philanthrocapitalisme, comme son nom l'indique, en fait, souhaite se baser sur le capitalisme et sur les grandes entreprises pour sauver le monde. Et donc, en gros, si vous voulez, on utilise le mode de pensée qui aujourd'hui nous emmène dans l'impasse et dans le mur maintenant pour sauver le monde. Et pour avoir recours en fait à ces technologies, eh bien, il faut passer par les grandes entreprises. Et donc, au final, qui est le vrai grand bénéficiaire de tous ces programmes d'aide, etc., ce sont les grandes entreprises. Voilà. Que ces grandes entreprises diffusent de l'agrochimie, des vaccins, des logiciels, des ordinateurs, etc. Donc, la stratégie pour sauver la planète, c'est de miser sur les multinationales et de donner souvent de l'argent à des gens qui en ont déjà. Et d'ailleurs, un des reproches qui est fait par l'univers scientifique à la Fondation Bill Gates, c'est de donner essentiellement à des pays dans lesquels les revenus sont déjà élevés et la recherche est déjà développée, etc. Et de rarement donner directement aux pays pauvres. Voilà. Donc, la philosophie, en fait, c'est, comme il le dit lui-même, c'est apporter les solutions. Hein ? Donc, comme les pauvres ne savent pas s'en sortir tout seuls, on leur donne, mais avec, on leur donne aussi la recette et comment ils vont dépenser leur argent. Donc, il y a un côté vraiment infantilisant dans la démarche et qui, du coup, fait que cette démarche passe toujours par les pays riches, par les grandes entreprises, avant d'arriver jusqu'aux bénéficiaires de ces actions, quoi. Et donc, Monsanto, pour Bill Gates, c'est vraiment l'avenir. Et si on veut sauver les pays pauvres de la faim, eh bien, il faut passer par les OGM. Voilà. Et là, il y a une stratégie qui est et de conflit d'intérêts qui est peut-être encore plus forte qu'ailleurs. C'est-à-dire que l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, par exemple, qui est la filiale africaine de la Fondation Gates, aide directement les grands semenciers et l'industrie agrochimique à pénétrer en force en fait, les marchés des pays pauvres et surtout à les dissuader d'utiliser les semences libres. Et cette stratégie, elle est agressive dans le sens où la fondation intervient directement auprès des réseaux d'agro-distributeurs pour qu'ils distribuent les bons produits. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de renforcer la dépendance des agriculteurs aux produits chimiques. Et par exemple, ben voilà, le principal pourvoyeur de produits chimiques au Malawi, par exemple, ben c'est Monsanto. Et ben voilà, la boucle est bouclée, quoi. Bon, voilà, c'est je pourrais vous parler encore longtemps parce que c'est vraiment une histoire assez tentaculaire et assez effrayante en réalité. Peut-être un mot quand même sur le début du parcours de Bill Gates. Parce que je crois que là où on a pêché un peu collectivement, ça a été de porter au nu ce personnage. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on cherche à comprendre comment Bill Gates en est arrivé là, quels sont les ressorts de sa stratégie pour être le maître du monde, c'est ce qu'il cherche à être, hein, je ne l'invente pas. Eh bien, en fait, c'est vraiment utile d'aller voir la manière dont il a construit son entreprise et ce qu'il a pu rencontrer comme obstacle sur ce chemin-là, quoi. Et en fait, qu'est-ce qui a conduit Bill Gates à créer une fondation ? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à un moment donné pour dire bon, j'arrête d'amasser et je vais commencer à donner. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin des années 90, l'État américain l'a attaqué en justice. Et autant vous dire que l'État américain, c'est pas une ONG écolo, etc. Hein. Donc, je veux dire, en principe, au niveau des valeurs, ils étaient à peu près en phase. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Bill Gates était allé encore très au-delà du capitalisme sauvage qui était défendu par l'État. Que lui reprochait l'État américain, en fait, de faire du chantage aux fabricants d'ordinateurs pour les obliger à installer son logiciel Internet, Internet Explorer. Parce que c'est un moment où il était en fait en retard sur l'avancée du marché. Il a sous-estimé l'arrivée d'Internet. Il s'y est pris trop tard et du coup, il s'est dit... Alors ce qu'il disait, c'était secret, hein, c'était pas officiel, mais ce qu'il disait aux fabricants, c'est si vous n'installez pas les systèmes d'exploitation, si vous n'installez pas Internet Explorer, je ne vous donne pas la licence sur le système d'exploitation Windows ou OS. Ce qui veut dire que, à partir de là, un fabricant d'ordinateurs ne peut pas diffuser ses ordinateurs puisque tout le monde a le même système d'exploitation. Donc l'État a attaqué Microsoft en justice et ça a été un procès qui a été assez catastrophique pour l'image de Bill Gates puisque ça a été retransmis dans les médias. Et à la télévision, ça a été très suivi par les Américains. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un Bill Gates qui, à un moment donné, était accablé, à court d'arguments, qui a perdu la face et qui était pris la main dans le pot de confiture. Et ceux qui ont enquêté pour le gouvernement le disent aujourd'hui, maintenant que le temps est un peu passé, ils disent, voilà, quand on a enquêté sur le système de Bill Gates, sur sa manière de faire du business, on a trouvé quand même quelque chose de très spécial. C'est-à-dire, Bill Gates, ça n'était pas seulement être meilleur que les autres, c'était d'abord être meilleur que les concurrents et ensuite tuer les concurrents. Tuer commercialement, évidemment, mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé et aujourd'hui encore... plus de 80, je crois que c'est 88%, il faudrait que je vérifie, mais plus de 80% des ordinateurs sont équipés du système d'exploitation Microsoft. Donc c'est une stratégie qui a fonctionné. Hein. Donc sa société, elle a été construite sur des abus de position dominante, des abus de monopole et sur cette notion du brevet. Et je terminerai là avant de vous donner la parole, mais on a eu des conversations qui étaient passionnantes avec Vandana Shiva à propos de Bill Gates, parce que elle a été une des premières, tout comme pour les OGM, à avoir cette réaction. Les OGM, elle a découvert ça en 87. Autant vous dire que je crois qu'aucun d'entre nous n'avait la moindre idée de ce que ça pouvait être. Et elle avait compris en fait comment Monsanto et puis d'autres à l'époque allaient prendre possession du vivant via le brevetage. En fait, Bill Gates a fait la même chose et au même moment avec les logiciels. C'est-à-dire que il y avait à l'époque une myriade d'amateurs qui s'échangeaient les bons plans, leurs travaux, etc., d'une manière bénévole, gratuite et citoyenne. Et lui, il est arrivé là-dedans, il a fait son petit basique à lui, qu'il voulait vendre à IBM, etc. Et puis, à partir de ce moment-là, il a dit « Maintenant, ça, c'est payant. Point. » Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il se basait sur un patrimoine informatique, un patrimoine de connaissances qui avait été construit par les autres bénévolement avant lui. Et surtout, tout ça, il l'a fait dans des salles d'université financées par l'argent public, etc. Mais ça a été le premier à faire payer quelque chose qui, auparavant, était gratuit dans ce domaine de l'informatique. Et c'est là où je trouve que l'histoire se rejoint et où elle est vraiment intéressante. C'est-à-dire qu'il a fait la même chose que ce qu'ont fait les grands semenciers. Hier, les grands semenciers, ils ont pris des graines qui avait des siècles et des siècles d'histoire, de sélection variétale, etc., un travail paysan incroyable de recherche. Ils ont rajouté un gène là-dedans, ils ont dit « maintenant, c'est à moi, il faut payer ». Et à l'époque, Ce qui est marrant, c'est que tous les amateurs se sont rebellés. Ils se sont dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et lui a fait une lettre qu'il a envoyée donc, à l'époque, en fait, c'était des clubs informatiques aux États-Unis, mais qui fonctionnaient comme des petites assos, quoi. Et il a dit, voilà, moi, je ne me suis pas, démené pour des prunes. Et donc, il faut payer. Ceux qui ne payent pas sont des voleurs. Et ça, ça a vraiment irrité au plus haut point tous ces gens qui, en fait, avaient créé... il n'a fait que s'emparer de quelque chose qui était dans le domaine commun. Il l'a adapté, revendu. Il était très malin sur le plan business. Mais je veux dire... Donc, c'est intéressant, si vous voulez, de reprendre le début de son parcours... qui a été glorifié, porté au nu et qui a été transformé. C'est un peu l'incarnation... Bill Gates, c'est un peu l'incarnation de la success story. Vous voyez, c'est vraiment voilà, l'entrepreneur dans son garage qui commence à réussir avec un truc qui finalement est impalpable, un logiciel, et qui fait fortune avec ça. Et moi, ça me semble important de relire justement un tout petit peu ça à l'aune de ce qu'on sait maintenant qu'il est, quoi. Et donc voilà, je trouve qu'on on voit dans le début de son histoire ce qu'est aujourd'hui la fondation, et ça n'en est à mon avis que plus inquiétant, quoi. Voilà, merci de m'avoir écouté.
Merci.
Et je vous donne la parole.
Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il est sincère quand vous dites j'ai bien l'impression que le pire c'est que je crois qu'il est sincère?
C'est intuitif. C'est intuitif, mais parce que je suis vraiment humaniste et je pars du principe que les gens font ce qu'ils croient bon, quoi. Et en plus, si vous voulez, quand on voit ce personnage, donc moi j'ai passé des heures à le regarder s'exprimer, etc. Et je ressentais une forme de sincérité. Je crois que ces deux ou trois dernières années, c'est en train de changer, simplement parce que probablement qu'il s'aperçoit, comme il est assez intelligent, qu'il est allé dans une impasse et qu'il est dans cette position du menteur qui à un moment donné n'arrive plus à des fins. C'est difficile quand on a tant investi dans certaines solutions de reconnaître parfois qu'on a tort. Mais moi, je ressens intuitivement qu'il est sincère. J'ai pas de preuves matérielles pour le dire. Mais je préfère le croire, en fait, aussi. Ça m'arrange parce que... Mais non, mais parce que je crois que c'est plus subtil que de la... comment dire, qu'une... C'est plus subtil que... oui, que de la méchanceté ou du complot ou quoi que ce soit. Je crois que ça va plus loin que ça, et c'est pour ça que ça marche.
Oui, moi, j'avais rencontré une association qui s'appelle Food First à San Francisco, qui travaillait déjà il y a une dizaine d'années contre Bill Gates. Et une fois où Bill Gates était invité à l'université à Berkeley, on avait distribué en fait des infos aux étudiants qui venaient pour l'admirer. Là, c'est quand il faisait université gratuite, là, il ouvrait à quelques étudiants qui étaient triés, qui avaient reçu une invitation et tout. Et donc, on avait été distribué à ces étudiants qui faisaient la queue les infos sur le comportement de la fondation en Afrique. Et en particulier la promotion des OGM. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce que c'était il y a 10 ans déjà. Donc aux États-Unis, il y avait déjà des gens mobilisés. Est-ce que vous savez si en Afrique, par rapport au programme de recherche qu'ils avaient financé, je sais qu'ils finançaient des chercheurs pour développer les OGM, enfin des centres de recherche, tout ça. Est-ce qu'il y a des mouvements des paysans africains ou d'autres qui voudraient développer justement pas les OGM mais l'agroécologie ou d'autres types d'agriculture? Est-ce que vous savez s'ils sont mobilisés et comment ils se mobilisent contre l'influence et la mainmise de cette fondation sur l'avenir de l'agriculture en Afrique?
Alors, s'il y a bien un endroit justement où j'ai trouvé des informations, c'est sur les sites des ONG et en particulier sur certains sites d'ONG africaines. Il y en a un qui est consacré à... spécifiquement au décryptage en fait de l'action de Bill Gates en Afrique et à la lutte contre cette stratégie d'emprise. Ce que je sais aussi, c'est que les gouvernements africains sont bien ennuyés souvent parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas forcément les connaissances ou l'avance ou le temps nécessaire pour apporter une défense efficace contre des stratégies juridiques destinées, par exemple, à ostraciser les semences libres et à obliger tout le monde à utiliser des semences hybrides, des OGM, etc. Et encore une fois, Vandana Shiva, par exemple, a été appelé à plusieurs reprises à aller faire une tournée en Afrique, simplement pour apporter un soutien technique à ses gouvernements, à ses parlementaires, et leur expliquer ce qui s'est passé ailleurs dans le monde, comment l'industrie s'y prend. Et c'est difficile de répondre à votre question parce qu'il faudrait être sur le terrain. Ce que je sais, c'est que, première chose, il y a un vrai mouvement de l'agroécologie en Afrique. Et dans certains pays, je veux dire, ils n'ont jamais fait que ça, finalement. Donc, ils ont déjà tout le savoir-faire. Et deux, en tout cas, il y a une vraie, comment dire, ils ont aucune illusion sur ce que peuvent faire les OGM. Mais à la fois, quand vous avez un acteur qui arrive avec autant d'argent, c'est difficile. Je veux dire, moi, je me mets à la place des gens qui sont en recherche d'emploi, etc. Si vous êtes embauché par une grosse fondation comme ça pour y travailler, vous n'avez qu'une envie, c'est d'adhérer au discours qu'elle porte, quoi. Pardon ? Ben justement, j'arrive pas. Je me souviens pas du nom, mais je vais. C'est dans les sources de mon bouquin.
Moi, je voudrais parler de ces campagnes de vaccination en Afrique et du taux important d'enfants décédés après le vaccin de la rougeole en particulier. Est-ce que vous êtes informé de ça ou est-ce que ce sont des fake news ? Parce que j'ai lu beaucoup de choses là-dessus qui sont très inquiétantes parce qu'en plus, il semblerait que ce sont des campagnes de vaccins périmées pour vider les stocks de l'industrie. Alors, est-ce que vous êtes informé de ça ou voilà ?
J'ai pas plus de détails que ce que vous avez vu sur ce dossier. Par contre, concernant la rougeole, ce qui se passe, en fait, c'est que un des succès de la Fondation Bill et Melinda Gates, c'est la lutte contre la polio. C'est un des domaines dans lequel ils ont été très efficaces, mais toujours à leur manière, c'est-à-dire sans passer par les conseils de terrain et en obligeant un peu à les uns les autres à utiliser telle ou telle technique. Et en fait, ça a posé de gros problèmes, ce succès de la polio, de la lutte contre la polio. Pourquoi ? Parce que, d'abord, quand vous donnez 1 euro pour intervenir dans un pays africain, quand vous en dépensez 1, le pays en dépense 2. Parce qu'il faut l'accueil, la logistique, le personnel, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que dans son entêtement, et maintenant j'ai compris que c'était un trait de sa personnalité qui revenait dans tous ses dossiers, que ce soit en affaires ou en philanthropie, dans son entêtement à être le meilleur et à tout écraser devant lui, en fait, il a décidé absolument d'éradiquer la polio. Alors, à première vue, on peut dire, mais c'est super. En fait, non. On en est à une situation où il doit rester quelques centaines de cas, tout au plus, je ne sais plus, c'est 300 ou 400 de cas de polio. Et en fait, les experts disent que ce qu'il faut, c'est contrôler. Une fois qu'on a contrôlé, on peut évidemment essayer d'aller un peu plus loin, mais il y a un moment donné où ça coûte beaucoup trop cher. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Les pays qui, encore une fois, sont obligés de donner pour accueillir ces campagnes de vaccination, ce qu'ils donnent pour la polio, ils ne le donnent pas pour d'autres maladies. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit que dans les pays où cette lutte contre la polio, j'allais dire presque excessive en fait, a été financée, eh ben on se retrouve avec d'autres maladies qui se développent à grande échelle et contre lesquelles on n'a pas lutté. Et les situations aussi dans lesquelles on se retrouve, c'est tout simplement en fait des villages qui voient arriver des, des, des infirmiers, des équipes qui proposent donc le vaccin contre la polio à des gens qui ne savent même pas ce que c'est et qui en revanche sont touchés par des problèmes beaucoup plus importants pour eux, quoi. Donc effectivement, il y a un problème avec les vaccins.
Ce que je voudrais dire, c'est qu'avant de vacciner les gens contre la polio, c'est une bactérie qui se transmet par l'eau. Et la première chose à faire avant de vendre des vaccins, c'est de faire de l'hygiène. Donc c'est une hérésie de vacciner des enfants qui sont déjà immunodéprimés, alors qu'il faudrait leur donner de l'eau propre. Et là, on éradiquerait la polio naturellement. Mais sauf que lui, il fait de l'argent en vendant ses vaccins.
Absolument.
Donc c'est insupportable. Voilà.
Il y a un autre domaine dans lequel c'est vraiment intéressant, qui recoupe votre réflexion. Il y a un autre domaine dans lequel c'est vraiment intéressant de voir sa démarche, c'est le paludisme. En fait, il y a une plante qui s'appelle l'Artémisia. Les tisanes d'Artémisia, maintenant, ça a été prouvé, il y a des recherches tout à fait légitimes qui ont été faites sur la question et qui sont au moins aussi efficaces, voire plus efficaces que le vaccin. Mais c'est là où il y a un problème presque démocratique. C'est-à-dire que la Fondation Bill et Melinda Gates étant l'un des plus gros donateurs à l'OMS, les décisions de l'OMS sont fortement influencées par cet acteur-là. Et donc, qu'a décidé l'OMS d'interdire l'utilisation de l'artémisine sous cette forme naturelle de tisane et de faire des recherches sur quoi ? Sur le vaccin. Voilà. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que dans cette logique, en fait, ce que je vous expliquais tout à l'heure sur cette espèce de mécano financier avec le trust qui est adossé à la fondation, c'est que on a... Parfois, les entreprises qui fabriquent les vaccins qui sont donnés font partie du trust. Donc c'est là où la boucle du conflit d'intérêts est absolument bouclée, quoi. Mais effectivement, voilà, ça, dans le domaine santé, il y a un vrai problème. Mais encore une fois, pour moi, c'est un problème de pouvoir à un moment donné. Et c'est pour ça que je trouve que ce livre est, en tout cas, son message est indispensable dans le sens où il faut que les citoyens aient quand même un droit de regard sur des décisions aussi importantes. Et lorsqu'un privé comme ça, tout seul, arrive à prendre le contrôle d'une organisation internationale comme l'OMS, il faut commencer à se poser vraiment des questions, quoi.
Du coup, en ayant vu tout ça, ça, c'est ce qui va pas. Est-ce que vous avez imaginé des pistes pour que ça change ?
Après, on vous donnera le micro, madame. Il y a plusieurs pistes. D'abord, je pense que quand même, ce qu'il faut rappeler, enfin, si on remonte vraiment à la source du problème, la source du problème, pour moi, c'est la concentration de richesses. C'est-à-dire qu'une seule personne ou une seule entreprise ne devrait pas pouvoir concentrer autant de richesses. 1% de la population ne devrait pas pouvoir concentrer 46% des richesses. Ça c'est... Enfin, si on n'en était pas passé par cette case-là, il n'y aurait pas la fondation Bill et Melinda Gates. Voilà, bon. Là, il y a quand même un vrai, vrai problème. Et pour lutter contre ce problème... Donc la source, à mon avis, vraiment des problèmes dont on parle, il y a la lutte contre les paradis fiscaux. Il faut taxer la rémunération du capital, quoi. C'est tout. Il ne faut pas que des richesses comme ça puissent s'amplifier ad vitam à travers un système financier où... finalement, c'est exponentiel. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il faut instaurer, à partir d'un certain niveau d'intervention, un droit de regard des États sur l'action de fondations comme celle-ci, quoi. Parce que y a une concurrence, quoi, hein, entre le pouvoir de ces organisations et des États qui ont été pourtant démocratiquement élus, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a une sorte de système parallèle qui se construit à côté des États et qui ne tient pas compte de la vie des citoyens. Mais encore une fois, c'est une stratégie qui est assumée. Et c'est ça qui est le plus surprenant. C'est-à-dire que, en fait, pour construire ce livre, ce qu'il a fallu, c'est chercher. Parce que, voilà, c'est des informations qui sont un peu éparpillées, pas faciles à trouver. Mais, par contre, il n'y a pas de secret. Et c'est pour ça aussi, j'en reviens tout à l'heure, on se disait, est-ce qu'il est de bonne foi, est-ce qu'il est de bonne volonté et tout. En fait, il cache rien. Si, il cache des choses, et il a caché des choses, c'est sûr, et ça a été prouvé. Mais en tout cas, on n'est pas dans une espèce de mafia occulte, etc. Et il ne fait que se servir. C'est le visage du système. C'est le visage du système. C'est-à-dire que c'est pour ça que je pense que c'est important de le reconnaître. C'est-à-dire que il incarne le système. Et c'est d'autant plus effrayant, c'est-à-dire qu'on est là-dedans. C'est Bill Gates, donc c'est l'incarnation. Moi, je trouve ça pratique et impactant de parler de lui, parce que c'est justement une incarnation poussée à un degré assez élevé. Mais on est là-dedans, c'est-à-dire qu'il ne fait que appliquer les règles du système dans lequel on se trouve, ni plus ni moins.
D'autres questions ?
Je crois que madame voulait...
Ça vient un peu tard maintenant, quand vous parliez du paludisme, et je vous ai dit, et vous trouvez qu'il est de bonne foi quand il fait ces actions-là,
Je vais vous dire
néfastes.
Pourquoi. Oui, mais non, mais il n'a pas l'intention de nuire. Voilà. Il n'a pas l'intention de nuire. Non, je pense que vraiment il est de bonne foi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, en fait... Il faut rentrer un petit peu dans sa tête à lui. Il a connu une réussite foudroyante très jeune. Donc quand il avait 20 ans, les gens ne croyaient pas sa secrétaire quand on disait que c'était le patron, parce que c'était un petit ado qui était à peine sorti de son bac. Donc il a vécu cette histoire de succès foudroyant, incroyable, international, sur la technologie. C'est le truc qui aussi lui a permis... Donc c'était un enfant surdoué et qui s'est révélé épanoui à travers la technologie. Et c'est comme ça qu'il a non seulement trouvé sa place dans la société et puis qu'il est devenu une sorte de maître du monde. Et aujourd'hui... Tout ce qui ressemble de près ou de loin à ce début d'histoire flamboyant le séduit. Et c'est pour ça qu'il est obsédé par la technologie. Et donc, si vous voulez, la tisane d'Artemisia dans les petits villages d'Afrique, ça ne lui parle pas. L'agroécologie, ça ne lui parle pas non plus. La nature, il n'en parle jamais, quoi. Il n'en parle jamais. Et d'ailleurs, un mensonge qu'il ne fait pas, c'est de parler d'écologie. Sur son site et dans ses discours et tout, il est très très peu, voire pas question d'écologie du tout. Donc il ne fait pas semblant d'aimer la nature. Et cette idée, ce principe de reconnaître le génie de la nature, de faire confiance au génie de la nature, aux semences libres, à l'agroécologie, etc., pour régénérer la nature, les sols et tout... pour lui, c'est du chinois. C'est du chinois. Alors que, il le dit, hein, il dit les vaccins, c'est une technologie très élégante, etc. Il aime ce côté propre, aseptisé. On met une goutte sur la langue, on fait une piqûre. Tout est ultra clean, etc. Ça lui plaît. Et je crois que dans cette démarche, il est sincère. C'est ça que je veux dire. Et donc, il n'est pas là dans l'idée de rendre les gens malades ou de les conforter dans leur maladie, mais simplement, il est dans son petit monde, dans son fantasme. Et ce qui n'est pas normal, c'est que on lui permette d'y rester et de contrôler l'action des autres à travers son petit prisme personnel, quoi.
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il n'y a pas d'autres écrits sur le sujet ?
Alors, pour être tout à fait sincère, j'ai trouvé aux États-Unis une sociologue qui a consacré une partie de son livre à l'action de Bill Gates et de sa fondation plus exactement, et qui parlait du philanthrocapitalisme. À part ça, j'ai rien trouvé. Je vous reparlerai un petit peu de sa démarche qui était vraiment passionnante. Mais pourquoi on trouve rien ? Simplement parce que il y a une censure qui est improuvable directement. C'est-à-dire que je n'ai pas sous la main de courrier de menace de la fondation Bill et Melinda Gates. Mais quand on finance autant de recherches, autant de journaux, etc., on n'a pas besoin de faire des menaces. Donc il y a une espèce de silence tacite, une autocensure dans le domaine universitaire notamment et dans le domaine de la recherche. Et il y a quand même des journalistes, je parlais du Lancet tout à l'heure, qui est quand même un journal assez crédible, je crois, journal scientifique britannique. En tout cas, comment dire, c'est pas un journal qu'on pourrait soupçonner d'être écolo-anarchiste, vous voyez ce que je veux dire. Donc, même eux, ils reconnaissent, ils évoquent ce problème de censure, mais plus largement, c'est vrai que voilà, il y a des ramifications partout, et parfois, quand une recherche sort, bien, vous avez le support qui publie l'article sur la recherche qui est financé par Bill Gates, le chercheur aussi, l'entreprise qui accueille le chercheur également, le laboratoire, etc. Vous avez toute la chaîne qui a été financée à un moment donné par Microsoft ou par la fondation Bill et Melinda Gates. Donc c'est vrai que moi j'appelle ça de la censure, même si encore une fois je serais bien en mal de il n'y a pas de courrier de menace, mais c'est encore beaucoup plus puissant que ça. Et voilà pourquoi, à mon avis, il y a peu de choses qui sont sorties jusqu'à présent. Et la deuxième chose, c'est que je répète parce que ça me semble important, il y a l'opacité vient en fait de la complexité du montage. C'est-à-dire que quand vous intervenez dans l'agriculture, la santé, la chimie, etc., c'est des domaines qui sont trop découpés avec plein de structures différentes. À chaque fois, la fondation est présente sous des identités qui sont en fait différentes. Et donc, rassembler ce puzzle, bon, c'est pas forcément évident. Ça ne s'impose pas, quoi.
Monsieur. Bonjour. Quel est l'avenir avec Bill Gates dans le futur ? Comment voyez-vous l'avenir avec tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, voilà, à l'horizon peut-être 2050, 2100.
Moi, ce que je constate, c'est que il y a une activité, sa fondation a une activité qui est débordante et qui est en plein boom. J'ai l'impression de découvrir des dossiers tous les matins, quoi. Donc, c'est pas très rassurant. À la fois, on le voit quand même, il y a une accélération aussi des mouvements citoyens et de la prise de conscience de l'importance du rôle que jouent ces quelques ultra-riches. Et ça passe par plein de biais différents qui ne touchent pas directement la fondation Bill et Melinda Gates, mais qui indirectement quand même font sonner l'alerte, quoi. Donc en fait, moi je pense qu'à ce stade, les deux vont avancer très loin, à la fois ce mouvement citoyen et l'action qui va probablement devenir encore plus offensive de la fondation Bill et Melinda Gates. Et donc je pense que, enfin, on va vers une forme de tension, quoi.
Vous dites que les montages financiers sont tellement complexes qu'il était difficile de faire des liens. Alors qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille ?
À vrai dire, lorsque j'ai démarré l'enquête, je n'y suis pas allé pour faire des liens, vraiment. C'est-à-dire que, comme tout le monde, j'avais vu des choses éparpillées et je pensais enquêter sur 3 ou 4 dossiers. Bon, bah voilà, il y avait les OGM, le paludisme. Et ça n'est qu'ensuite que j'ai découvert ces liens. Et je les ai découverts notamment avec l'aide d'un journaliste britannique et d'une ONG avec laquelle il travaille. Le journaliste, c'est Mark Curtis, un journaliste du Guardian. Et l'ONG s'appelle Global Justice Now. Et ils ont fait un rapport vraiment génial dont j'ai tiré pas mal d'infos qui sont dans mon livre et qui s'appelle Gated Development. Donc c'est un jeu de mots qui veut dire développement fermé, quoi, avec le nom de Bill Gates. Et là, j'ai découvert beaucoup de ces liens avec l'industrie pharmaceutique, avec l'agrochimie, mais encore un peu plus en détail, avec l'industrie de l'agroalimentaire aussi. Voilà, par exemple, je ne savais pas que Coca-Cola fait à la fois partie du trust qui finance la fondation Gates et est financée par la fondation Gates qui incite en fait les communautés dans les pays pauvres à devenir des détaillants Coca-Cola. Donc voilà, par la suite j'ai découvert plein de choses, mais c'est vrai que ces liens n'apparaissent pas tout de suite, quoi.
Et qu'est-ce qu'on peut penser des financements en particulier du mécénat artistique de nos ultra-riches à nous ?
Ben justement, c'était marrant parce que une fois que j'ai vu ça, j'ai essayé de savoir un petit peu qui étaient nos philanthro-capitalistes à nous. Alors, il y en a sûrement beaucoup. Moi, il y en a un qui m'a plus particulièrement frappé, c'est Bernard Arnault. Voilà. Et oui, et typiquement, c'est vrai que récemment, il a annoncé qu'il faisait payer l'entrée de ses musées. Je crois que c'est 24 euros, le prix d'entrée. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la fondation LVMH. Donc, c'est un immeuble somptueux, ultra design, etc. Et il est clair, évident et presque officiel que c'est simplement une bannière publicitaire, quoi. Mais au moins, on aurait pu penser que l'accès à la culture serait gratuit pour les gens qui veulent bien aller visiter cette fondation. Et bah, maintenant, ça n'est même plus le cas, quoi. Donc ça, c'est du philanthrocapitalisme aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est il n'y a pas d'intérêt général, en fait, dans cette démarche.
Bonsoir, Lionel. J'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, là, j'arrive à la fin. Hein. Donc, du coup, je n'ai pas pu participer à tout ce qui a été dit. Et je vais peut-être plus ou moins rebondir sur ce qui vient d'être partagé là. J'ai cru comprendre que tu avais beaucoup porté ton attention sur la fondation Bill Gates. Est-ce que ça a été évoqué et effectivement les ramifications avec, bien entendu, non pas toutes les autres multinationales, mais d'autres fondations qui fonctionnent de cette façon-là ? C'est spécifique à la fondation Bill Gates ou c'est un exemple parmi d'autres ? Et puis voilà.
Eh ben, alors, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est le modèle. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que en fait, chez les ultra riches, le fait de posséder une fondation et de la faire tourner comme ça, d'en faire un étendard, c'est devenu un signe extérieur de richesse. Au même titre qu'auparavant, avoir une villa, une grosse voiture, etc. Et donc, oui, ça se répand. Ce qui est intéressant, c'est que autant des Rockefeller, Carnegie, etc., l'arrivée de l'industrie aux États-Unis, il y avait déjà une forme de philanthropie du même genre, avec des associations caritatives qui étaient financées par ces grands patrons, etc. La différence, et je trouve ça assez inquiétant, c'est qu'à l'époque, en fait, les citoyens, les journalistes et autres n'avaient aucune illusion sur la finalité de ces fondations et de cette prétendue charité. Et en fait, ces fondations, on les tournait en dérision tout le temps, à longueur d'articles, de spectacles, ce que vous voulez. Et les Américains n'avaient vraiment aucune illusion. C'était officiel que ces fondations, elles servaient à calmer les révoltes potentielles et à faire en sorte que la paix sociale soit maintenue. Voilà. Et ça a été documenté par la sociologue américaine dont je parlais tout à l'heure. Et donc, de voir qu'aujourd'hui, la plupart des journalistes se contentent, quand ils parlent de la fondation Bill et Melinda Gates ou de Bill Gates lui-même, de le décrire comme un champion de la générosité, moi, je trouve ça vraiment inquiétant, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez un tout petit peu de recul et d'esprit critique sur ces questions, il faut en tout cas ne pas compter sur la presse mainstream, quoi.
Merci. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, de ressentir ce gars-là sincère, humaniste, etc. Qu'est-ce que tu penses de l'affirmation, je ne sais pas d'où elle sort, le capitalisme avance ou avancera toujours à pas feutré, caché sous le masque de l'humanisme. C'est une question.
Moi, je suis toujours hyper surpris de voir effectivement la manière dont le capitalisme peut récupérer des bonnes causes pour faire de l'argent avec, ou en tout cas les vider de leur contenu, quoi. Je pense qu'on peut le dire quasiment de tout ce qui a pu se développer, que ce soit dans l'agriculture biologique, etc. C'est pas un propos défaitiste, hein, mais je veux dire, il y a un génie. Pour moi, quand on parle de la main invisible d'Adam Smith, c'est ça, c'est plutôt ça, quoi. C'est-à-dire que c'est le capitalisme s'adapte à tout et absorbe tout ce qui est sur son passage. Mais je pense pas que ça remette en question le présupposé dont je parlais tout à l'heure et la sincérité de Bill Gates, quoi. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement il est humaniste et il est sincère dans cette démarche, et je pense pas qu'il se lève le matin en se disant je vais me débrouiller pour que la faim dans le monde continue. Non, il se lève avec des bonnes intentions, mais il est simplement le visage et l'outil d'un système, quoi. Et un outil bien pratique et crédible, quoi, pour le grand public, en tout cas.
Je me demande jusqu'à quelle extension on peut aller dans cette idée qu'il y a une sincérité. Parce que, en définitive, on définit un système, on est à l'intérieur, mais il y a quand même, on sent qu'il y a quand même une limite entre ce que vous dites et puis le côté conspi, je veux dire, organisationnel, d'idéologie. Vous voyez, il y a quand même quelque part derrière des gens, ils ont sincèrement une idéologie aussi. Une idéologie qui après, qu'est-ce qu'on définit de la sincérité ? Après, c'est...
En fait, je pense que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Là, on est en plein dedans. L'aspect conspirationniste, moi, j'y crois pas. Mais ce que je crois, c'est que collectivement, on est capable, en fait, de développer effectivement une stratégie qui va au-delà de la sincérité individuelle. Et qui, dès qu'il s'agit de stratégie de communication, etc., peut vite verser dans la mauvaise foi et une forme de malhonnêteté. Et donc, effectivement, il y a cette action et cette démarche personnelle d'un individu. Et puis ensuite, il y a la manière dont son organisation s'en empare, la défend, etc. Et au final, c'est vrai qu'on construit un système qui est très articulé, très nuisible, malhonnête, illicite, et qui finit par devenir dangereux. Mais en fait, si je dis ça, c'est pas par provocation, c'est vraiment parce que moi j'y crois. C'est-à-dire que, encore une fois, moi je l'ai regardé s'exprimer pendant des heures, et je voyais pas de traces de comment dire, de malice ou de voilà, de malhonnêteté dans sa manière de s'adresser aux gens, quoi. Merci.